superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassé.
C'est pas le temps de faire ça.
Loïc Tassé, bonjour.
Salut Benoît, ça me laissait très songeur l'entrevue tout à l'heure, parce que moi j'ai des étudiants qui viennent du monde entier, puis j'ai vécu dans beaucoup de pays. Quand t'es au Japon, c'est bizarre, hein, mais le gouvernement s'adresse à toi en japonais, en Chine, en chinois, en Italie, en italien, en France, en français, mais au Québec, sais-tu que si tu communiques avec, par exemple, le ministère pour avoir un permis de conduire, le ministère des Transports, tu peux recevoir de la documentation exclusivement en anglais.
Ah oui.
Même chose avec l'assurance santé. Pas en bilingue, là. Pas français, anglais. Non. Tout en anglais. 100%.
En tout cas,
Même chose avec les impôts.
Absolument.
Je pense qu'il y a un problème qui est réel, puis qu'effectivement, il y a des gens qui ont abusé de la gentillesse et de la patience des Québécois là-dedans. Et ces gens-là, c'est des Rhodésiens de Westmount qui entraînent dans leur sillage un certain nombre d'immigrants.
Mais tu sais, moi je dois saluer aussi Dominique Andelade de venir en entrevue là. Elle a les ovaires accrochés là. Tu sais, moi j'ai connu des politiciens là qui une fois t'avais ce genre d'entrevue là, puis là ils t'envoyaient un mot comme quoi plus jamais il allait revenir. Tu sais, je suis pas sûr que François Legault serait capable de prendre.
Mais elle a tort.
Peut-être qu'elle a tort, mais...
Elle est en train de perdre ses élections.
Ça, c'est deux choses.
C'est pas tenable comme position. Les anglophones, comme tu le disais si bien, ont tous les privilèges. Puis ils en veulent encore plus.
C'est ça, c'est jamais assez. Mais je voulais juste souligner le fait que Mme Andelade vient au bat. Puis elle y va, puis elle défend son point de vue, puis elle le fait bien.
Oui. On est d'accord. Puis moi, je respecte tous les gens qui viennent... débattre de manière civilisée. Je suis tout à fait en faveur de ça.
Quel que soit le sujet. Parlons de gens qui ne sont pas civilisés.
Non.
Les Russes en Ukraine.
En Ukraine, vraiment pas civilisés. Il y a d'ailleurs des vidéos qui circulent où on voit des Russes tuer des civils dans le dos. Cette armée se comporte extrêmement mal. Tu sais, dans toutes les guerres, les armées... Il arrive que des armées se comportent mal. Il n'y a pas une armée qui est à l'abri de bavures, et il y en a, malheureusement, c'est la guerre. Mais malheureusement, dans le cas de l'armée russe, il y a un côté systématique à ça qui est vraiment très, très inquiétant. En tout cas, les Russes, malheureusement pour eux, ont perdu une bataille très, très importante hier. C'était une bataille dans le Donbass pour traverser un fleuve, pas très large, une cinquantaine de mètres tout au plus, mais... Pour eux, c'est un grand fleuve. Et ils ont essayé trois fois de traverser ce fleuve. Les trois fois, ils se sont fait repousser. Et finalement, il y a tout un bataillon qui a péri. Un bataillon, c'est 1000 personnes. Bon, il n'y a pas eu 1000 tués, mais les véhicules, etc. Il y a eu vraiment énormément de blessés, énormément de morts du côté russe. Ils n'arrivent pas à avancer. Il y a vraiment un problème. Et en même temps, on se rend compte que dans le sud de l'Ukraine, les positions russes commencent à se faire, mais alors là, pas à peu près, mais se faire bombarder. Ils se font vraiment canarder. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens ont commencé à recevoir de l'équipement de l'OTAN. Et ça paraît. Je suis persuadé que la bataille que les Ukrainiens ont gagnée, dont je viens de te parler, dans le Donbass, elle est due, bien sûr, d'abord et avant tout, à la valeur des troupes ukrainiennes, ça va de soi. Mais aider puissamment par les armes que l'OTAN leur donne. Et la même chose dans le sud. On est en train de voir ça dans le sud. Les Ukrainiens bombardent les positions des Russes. Ça va vraiment pas bien pour les Russes. Tellement mal qu'il y a un certain Igor Girkin, de triste mémoire en réalité, parce que c'est un colonel, un ancien commandant en chef des forces pro-russes en Ukraine. C'est un gars qui faisait partie des forces fédérales de sécurité russes il y a 51 ans. Et il est sorti dans un vidéo qu'il a mis en onde, et il attaque le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, et il l'accuse de négligence criminelle, et il dit même qu'il le soupçonne de trahison. Parce que, il dit, l'armée russe, elle est en train de perdre, il y a une forte possibilité qu'elle perde. Et ce gars-là, c'est un gars qui est très agressif, qui est très en faveur de la Russie, c'est un gars qui est en faveur de l'invasion de l'Ukraine, etc. mais lui voit que son camp est en train de perdre. Et il attaque donc le ministre de la Défense russe, qui est très proche de Poutine, qui le voit même comme son dauphin. Mmh. En d'autres termes, tu as une attaque voilée contre Poutine qui vient de se faire, et on entend ça un petit peu à travers les branches. On entend des gens qui faisaient partie, par exemple, du groupe Wagner, qui disent « l'armée russe est mal préparée, n'a pas été préparée », et les gens sentent la défaite, là. Ils sont en train, on est en train de chercher des boucs émissaires. C'est commencé en Russie.
Mmh. Bon, ça augure mal, hein, parce que si les crinqués deviennent encore plus crinqués que le crinqué en chef, ça va dégénérer, hein. Ça,
c'est pas. J'aime tes analyses politiques.
Ouais, merci.
Mais qui sont très justes.
Non, c'est
pas bon. Nécessairement le vocabulaire, le vocabulaire habituel, mais c'est très juste.
Bon, et l'Ukraine ne veut pas soutenir la candidature de la Finlande dans l'OTAN.
L'Ukraine, c'est une erreur de ma part. C'est la Turquie.
OK. Parce que il y a la Suède aussi, hein.
La Turquie, qui, en fait, voudrait bloquer la candidature de la Finlande. Tout le monde se demande pourquoi. Et Erdogan a dit, ouais, mais c'est parce que, vous savez, la candidature de la Finlande, puis la Suède, c'est un peu comme la candidature de la Grèce. Alors, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? On sait que les Turcs et les Grecs se détestent, mais ça n'a rien à voir. Puis il continue, ouais, mais vous savez, c'est parce que, en fait, il y a des groupes terroristes qui sont protégés en Finlande et en Turquie. Ah, pas en Turquie, en Suède. Ah, on comprend. Il s'agit des Kurdes. Erdogan est en lutte armée contre les Kurdes. On peut même dire, et je pèse mes mots, qu'il y a un génocide contre les Kurdes en ce moment en Turquie. Mais comme personne ne va dans les territoires kurdes, c'est très difficile de rapporter ça. Puis il y a d'autres choses qui chauffent ailleurs, mais Erdogan n'est pas content parce que, en effet, la Suède et la Finlande protègent des groupes kurdes, des groupes politiques kurdes. Et c'est pour ça qu'ils s'opposent à l'entrée en ce moment de la Finlande et de la Suède à l'intérieur de l'OTAN. Il faut avoir l'unanimité pour que la Suède et la Finlande rentrent dans l'OTAN. À mon avis, c'est une position de négociation de la part d'Erdogan. Mmh. Il va essayer de tirer un certain nombre d'avantages de ça. Puis ça va finir par se régler, je pense. En tout cas, le gouvernement finlandais a dit « Soyez patients, ça s'en vient ».
Toujours, il y a toujours un as dans sa manche, hein, Erdogan, en Turquie. Ah. Tout le temps.
N'importe quoi pour pressurer l'étranger, pour aller chercher des appuis davantage. En fait, moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à du chantage, ce genre de choses. C'est un peu déplorable.
Ouais. Et en Chine?
Mais en Chine, ça marche mal encore. Mais alors là, on apprend que les Chinois, c'est dans le monde, ne peuvent presque plus voyager à l'étranger. Au nom de la COVID, alors évidemment les Chinois d'outre-mer sont découragés à revenir en Chine, à tel point qu'il y a 98% des vols entre la Chine et l'extérieur qui ont été annulés, et les fonctionnaires et les hauts dirigeants d'entreprise aussi. Eux, ils n'ont plus le droit de garder leur passeport chez eux, ils doivent aller déposer leur passeport au commissariat de police. Et dans la province du Hunan, les autorités ont même demandé à tous les détenteurs de passeports de remettre à la police leur passeport jusqu'à la fin de la pandémie. Alors officiellement, c'est parce que, n'est-ce pas, on veut éviter la contagion, on veut pas que les gens se déplacent. Sauf qu'on commence à comprendre qu'il y a beaucoup de Chinois qui en réalité veulent quitter la Chine parce qu'ils sont inquiets de l'évolution à l'intérieur de la Chine. On en a souvent discuté, la Chine devient de plus en plus totalitaire et donc les gens veulent émigrer. Et sortir de Chine. Et le gouvernement chinois, semble-t-il, est en train d'essayer de dissuader les gens de faire ça. C'est très intéressant à suivre, ce qui se passe là-bas.
Bon, et dernier sujet, on a le temps, soigne-donc, Gaston Lagaffe.
Ah, il faut se faire plaisir un peu. Avec Gaston Lagaffe, les gens qui le connaissent pas, c'est un héros de bande dessinée, qui est dessiné par Franquin, qui est un dessinateur de génie. C'est le Picasso de la bande dessinée, Franquin. Et donc, il y avait ce héros sans emploi, Gaston Lagaffe, gaffe qui, comme son nom dit, faisait des gaffes partout au bureau des éditions Dupuis, qui produisait des bandes dessinées. Alors, Franquin est mort il y a 25 ans, et puis il n'y a plus de Gaston Lagaffe depuis 25 ans. Mais ne voit-il pas qu'un certain Marc de La Fontaine, ça te dit quelque chose, Marc de La Fontaine? C'est, son nom de plume, c'est Delaf, et c'est lui qui fait les nombris. C'est un Québécois. Il est né à Sherbrooke en 1973. Et ce gars-là a un trait de plume extraordinaire. Il est capable d'imiter Franquin. très très bien. En plus, il sert d'ordinateur pour arriver à retrouver le coup de trait de Franquin, etc. Et donc, il est en train de faire, 25 ans après, une suite à Gaston Lagaffe. Sauf que la fille de Franquin, Isabelle Franquin, s'y oppose. Elle dit, non, ça, il y a des droits moraux là-dedans. Vous pouvez pas faire ça. C'est fini, Franquin. Mon père a fait son œuvre, il faut la respecter. Vous pouvez pas reprendre ces personnages.
Oui, comme Hergé, hein.
Comme Hergé, exactement. C'est de la même tente, d'ailleurs, qu'avec Hergé. Sauf que, contrairement à Hergé, Franquin a cédé ses droits en 1992. Et dans le contrat, il est bien écrit que seuls des motifs esthétiques ou artistiques peuvent stopper une adaptation de Gaston Lagaffe. Et donc, la Maison Dupuis, en ce moment, a ce contrat entre les mains. Puis il dit, non, vous ne pouvez pas nous empêcher de faire ça. Franquin nous a cédé les droits. En fait, il ne l'a pas cédé d'abord à Dupuis, mais il a cédé les droits, donc vous êtes obligé de tolérer que quelqu'un fasse davantage de Gaston Lagaffe. Et, comme je te dis, c'est un Québécois qui est en plein milieu de cette polémique, qui divise complètement le monde de la bande dessinée en Europe. Il y a les pros et les anti. Les pros disent, mais oui, on peut le faire. Et Achille Talon, par exemple, a été repris. Lucky Luke a été repris. Les Schtroumpfs continuent. Bon. Puis t'en as d'autres qui disent, non, une fois que l'œuvre est terminée, il faut l'arrêter. Tu évoquais Tintin, ben Tintin, c'est fini, c'est une œuvre terminée, puis c'est tout, voilà.
Bon, ben, pour ceux que ça intéresse, Gaston Lagaffe qui est...
Allez lire, si vous ne l'avez jamais lu, c'est vous très allez bien drôle. Rigoler.
Parfait. Loïc Tassé, merci.
Allez, au revoir.
À lundi.